Louise Collet, Croisset, 26 juillet 1851. Je vous écris parce que mon cœur me porte à vous dire quelques bonnes paroles. Pauvre ami, si je pouvais vous rendre heureuse, je le ferais avec joie. Ce ne serait que justice. L'idée que je vous ai tant fait souffrir m'est à charge, ne le comprenez-vous pas? Mais cela ne dépend, et tout le reste n'a dépendu ni de moi, ni de vous, mais des choses mêmes. Vous m'avez dû l'autre jour à Rouen trouver bien froid. Je l'ai été le moins possible pourtant. J'ai fait tous mes efforts pour être bon. Tendre, non, c'eût été une hypocrisie infâme et comme un outrage à la vérité de votre cœur. Lisez et ne rêvez pas. Plongez-vous dans de longues études. Il n'y a de continuellement bon que l'habitude d'un travail entêté. Il s'en dégage un opium qui engourdit l'âme. J'ai passé par des ennuis atroces et j'ai tournoyé dans le vide et perdu d'embêtement. On s'en sauve à force de constance et d'orgueil. Essayez. Je voudrais que vous fussiez en tel état que nous puissions nous revoir avec calme. J'aime votre société quand elle n'est pas orageuse. Les tempêtes qui plaisent si fort dans la jeunesse ennuient dans l'âge mûr. C'est comme l'équitation. Il fut un temps où j'aimais aller au grand galop. Maintenant, je vais au pas et la bride sur le cou. Je deviens très vieux. Toute secousse me gêne. Et je n'aime pas plus à sentir qu'à agir. Vous ne me dites rien de ce qui m'intéresse le plus, vos projets. Vous n'êtes encore fixé à rien, je le devine. L'avis que je vous avais donné était bon. Il faut toujours, comme disait Phidias dans le temps, avoir un gigot et un aloyau. Je vous reverrai bientôt à Paris, si vous y êtes. Vous deviez rester en Angleterre un mois. Je serai à Paris à la fin de la semaine prochaine, je présume. J'irai en Angleterre vers la fin du mois d'août. Ma mère désire que je l'y accompagne. Ce dérangement m'ennuie. Enfin, si vous y êtes encore, j'irai vous faire une visite. Nous tâcherons d'être contents l'un de l'autre. À Paris, je remettrai chez vous les deux manuscrits que vous m'avez confiés. Je vous rendrai aussi, mais seulement à vous et en main propre, une médaille de bronze que j'ai acceptée jadis par faiblesse et que je ne dois pas garder. C'est la propriété de votre enfant. À Louise Collet, Croisset, vendredi soir, 8 août 1851. Vous me demandez que je vous apporte quelque chose de moi. Je n'ai rien à vous montrer. Voilà plus de 2 ans que je n'ai écrit une ligne de français et ce que j'avais écrit de longtemps avant mon départ est illisible et non copié. D'ailleurs, dans l'état de dégoût où je suis de moi, ce n'est pas le moment. À quelques jours, si j'ai dans mon navire une cargaison non avariée et qui en vaille la peine, quelques belles choses rapportées de loin ou trouvées par hasard, qui sait, vous serez des premières à la voir. Je vous le promets. À Louise Collet, Croisset, samedi soir, 20 septembre 1851. J'ai commencé hier au soir mon roman. J'entrevois maintenant des difficultés de style qui m'épouvantent. Ce n'est pas une petite affaire que d'être simple. J'ai peur de tomber dans le Paul de Kock ou de faire du Balzac chateaubriandisé. À Maxime Ducamp, ce mardi 21 octobre 1851. Tu sais bien que je suis l'homme des ardeurs et des défaillances. Si tu savais tous les invisibles filets d'inaction qui entourent mon corps et tous les brouillards qui me flottent dans la cervelle. J'éprouve souvent une fatigue à périr d'ennui lorsqu'il faut faire n'importe quoi. Et c'est à travers de grands efforts que je saisis l'idée la plus nette. Ma jeunesse, dont tu n'as vu que la fin, m'a trempé dans je ne sais quel opium d'embêtement pour le reste de mes jours. J'ai la vie en haine. Le mot est parti, qu'il reste. Oui, la vie et tous ceux qui me rappellent qu'il la faut subir. Je suis emmerdé de manger, de m'habiller, d'être debout, etc. J'ai traîné cela partout, en tout, à travers tout, au collège, à Rouen, à Paris, sur le Nil. Nature nette et précise, tu t'es toujours révolté contre ces normandismes indéfinis que j'étais si maladroit à excuser. Et cela m'a valu de ta part, Maxime, des duretés qui m'ont souvent été amères. Je passais l'éponge dessus, mais le moment était pénible. Crois-tu que j'ai vécu jusqu'à 30 ans de cette vie que tu blâmes en vertu d'un parti pris et sans qu'il n'y ait eu une longue consultation préalable? Pourquoi n'ai-je pas eu de maîtresse? Pourquoi prêchais-je la chasteté? Pourquoi suis-je resté dans ce marais de la province? Est-ce que tu crois que je ne bande pas comme un autre et que je ne serais pas bien aise de faire le beau monsieur là-bas? Ben oui, ça m'amuserait assez. Considère ma balle sérieusement et dis-moi si c'est possible. Le ciel ne m'a pas plus destiné à tout cela qu'à être un beau valseur. Peu d'hommes ont eu moins de femmes que moi. C'est la punition de cette beauté plastique qu'admire Théo. Et si je reste inédit, ce sera le châtiment de toutes les couronnes que je me suis tressées dans ma primevère. Ne faut-il pas suivre sa voie? Si je répugne au mouvement, c'est que j'ai raison, peut-être. Il y a des moments où je crois même que j'ai tort de vouloir faire un livre raisonnable et de ne pas m'abandonner à tous les lyrismes, gueulades et excentricités philosophico-fantastiques qui me viendraient. Qui sait, un jour j'accoucherai peut-être d'une œuvre qui serait mienne au moins. À Louise Collet, Croisset, nuit de jeudi, 1h, 23 octobre 1851. Je me tourmente, je me gratte, mon roman a du mal à se mettre en train. J'ai des abcès de style et la phrase me démange sans aboutir. Quel lourd aviron qu'une plume et combien l'idée, quand il la faut creuser avec, est un dur courant. Je m'en désole tellement que ça m'amuse beaucoup. J'ai passé aujourd'hui ainsi une bonne journée, la fenêtre ouverte, avec du soleil sur la rivière et la plus grande sérénité du monde. J'ai écrit une page, en ai esquissé 3 autres. J'espère dans une quinzaine être enrayé. Mais la couleur où je trempe est tellement neuve pour moi que j'en ouvre des yeux ébahis. À Louise Collet, Croisset, lundi soir, 3 novembre 1851. J'aurais dû déjà répondre à votre longue et douce lettre qui m'a émue, pauvre chère femme. Mais je suis moi-même si lassé, si aplati, si embêté qu'il faut que je me secoue vertement pour vous dire merci d'avoir lu si vite Mélanis. J'ai embrassé de votre part l'auteur qui a été touché de cette sympathie. Vous êtes la première du public qui l'applaudissiez. Eh bien, qu'en dites-vous? N'est-ce pas que c'est assez crânement tourné? Je ne puis juger de sang-froid cette œuvre qui a été faite sous mes yeux, à laquelle j'ai beaucoup contribué moi-même. J'y suis pour trop pour qu'elle me soit étrangère. Pendant 3 ans, ça a été travaillé au coin de ma cheminée, strophe à strophe, vers à vers. Je crois qu'on peut dire que ça promet un poète de haute futaie. Nous étions, il y a quelques années, en province, une pléiade de jeunes drôles qui vivions dans un étrange monde, je vous assure. Nous tournions entre la folie et le suicide. Il y en a qui se sont tués, d'autres qui sont morts dans leur lit, un qui s'est étranglé avec sa cravate, plusieurs qui se sont fait crever de débauche pour chasser l'ennui. C'était beau. Il n'en reste plus rien que nous deux, Bouillet, qui sommes tant changés. Si jamais je sais écrire, je pourrais faire un livre sur cette jeunesse inconnue qui poussait à l'ombre dans la retraite comme des champignons gonflés d'ennui. Le secret de tout ce qui vous étonne en moi, chère Louise, et dans ce passé de ma vie interne que personne ne connaît. Mélanis, en résumé, est le dernier écho de beaucoup de cris que nous avons poussés dans la solitude. C'est l'assouvissance d'un tas d'appétits qui nous ravageait le cœur. Vous avez raison de dire que je n'en ai pas. Je me le suis dévoré à moi-même. Aujourd'hui, je me sens noyé dans des flots d'amertume. L'arrivée des exemplaires de Mélanis m'a fait un effet de tristesse. Nous avons passé hier tout notre après-midi sombre comme la plaque de la cheminée. Ça nous causait une impression de prostitution, d'abandon, d'adieu. Comprenez-vous? Quand j'ai reçu, au contraire, il y a 4 ans, le volume de Maxime, les mains me tremblaient de joie en coupant les pages. D'où vient cette glace de maintenant, impression si différente de l'autre? Je vous assure que tout cela ne m'excite nullement et que j'ai grande envie de devenir phoque, comme vous dites. Je me demande à quoi bon aller grossir le nombre des médiocres ou des gens de talent, c'est synonyme, et me tourmenter dans un tas de petites affaires qui, d'avance, me font hausser les épaules de pitié. Il est beau d'être un grand écrivain, de tenir les hommes dans la poêle à frire de sa phrase et de les y faire sauter comme des marrons. Il doit y avoir de délirants orgueils à sentir qu'on pèse sur l'humanité de tout le poids de son idée. Mais il faut pour cela avoir quelque chose à dire. Or, je vous avouerai qu'il me semble que je n'ai rien que n'aient les autres, ou qui n'ait été aussi bien dit, ou qui ne puisse l'être mieux. Dans cette vie que vous me prêchez, j'y perdrai le peu que j'ai. Je prendrai les passions de la foule pour lui plaire et je descendrai à son niveau. Autant rester au coin de son feu à faire de l'art pour soi tout seul, comme on joue aux quilles. L'art, au bout du compte, n'est peut-être pas plus sérieux que le jeu de quilles. Tout n'est peut-être qu'une immense blague. J'en ai peur. Et quand nous serons de l'autre côté de la page, Nous serons peut-être fort étonnés d'apprendre que le mot du rébus était si simple. Au milieu de tout cela, j'avance péniblement dans mon livre. Je gâche un papier considérable. Que de ratures. La phrase est bien lente à venir. Quel diable de style ai-je pris ? On y soit les sujets simples. Si vous saviez combien je m'y torture, vous auriez pitié de moi. M'en voilà batté pour une grande année au moins. Quand je serai en route, j'aurai du plaisir, mais c'est difficile. J'ai recommencé aussi un peu de grec et de Shakespeare. J'oubliais de vous dire que l'institutrice est arrivée depuis 10 jours. Son physique ne m'impressionne pas, du reste. Je n'ai jamais été moins vénérien. Adieu, je t'embrasse, pauvre femme aimée. C'est bien grossier d'écrire une lettre de 4 pages pour ne parler que de soi. C'est qu'en vérité, c'était déjà beaucoup. À Louise Collet, Croisset, lundi matin, midi, 12 janvier 1852. À la fin de la semaine, je t'écrirai. J'ai bien du mal à me remettre au travail. Ces 15 derniers jours de repos m'ont tout à fait dérangé. Pour le moment, mon sujet me manque entièrement. Je ne vois plus l'objectif. La chose à dire fuit au bout de mes mains quand je la veux saisir. À son oncle parrain, Croisset, janvier 1852. Je me suis remis à travailler comme un rhinocéros. Les beaux temps de Saint-Antoine sont revenus. Fasse le ciel que le résultat me satisfasse davantage. À Louise Collet, Croisset, vendredi soir, 16 janvier 1852. Pas si rêveur encore que l'on pense. Je sais voir et voir comme voient les myopes. Jusque dans les pores des choses, parce qu'ils se fourrent le nez dessus. Il y a en moi, littérairement parlant, 2 bons hommes distincts. Un qui est épris de gueulade, de lyrisme, de grands vols d'aigle, de toutes les sonorités de la phrase et des sommets de l'idée. Un autre qui fouille et creuse le vrai tant qu'il peut, qui aime à accuser le petit fait aussi puissamment que le grand, qui voudrait vous faire ressentir presque matériellement les choses qu'il reproduit. Celui-là aime à rire et se plaît dans les animalités de l'homme. Je t'ai dit que l'éducation sentimentale avait été un essai. Saint-Antoine en est un autre. Prenant un sujet où j'étais entièrement libre comme lyrisme, mouvement, désordonnement, je me trouvais alors bien dans ma nature et je n'avais qu'à aller. Jamais je ne retrouverai des éperdements de style comme je m'en suis donné là pendant 18 grands mois. Comme je taillais avec cœur les perles de mon collier, je n'y ai oublié qu'une chose, c'est le fil. Seconde tentative et pis encore que la première. Maintenant j'en suis à ma 3e. Il est pourtant temps de réussir ou de se jeter par la fenêtre. Ce qui me semble beau, ce que je voudrais faire, c'est un livre sur rien. Un livre sans attache extérieure, qui se tiendrait de lui-même par la force interne de son style, comme la terre, sans être soutenue, se tient dans l'air. Un livre qui n'aurait presque pas de sujet, ou du moins où le sujet serait presque invisible, si cela se peut. Les œuvres les plus belles sont celles où il y a le moins de matière. Plus l'expression se rapproche de la pensée, plus le mot colle dessus et disparaît, plus c'est beau. Il n'y a ni beau ni vilain sujet. Et on pourrait presque établir comme axiome, en se posant au point de vue de l'art pur, qu'il n'y en a aucun. Le style étant à lui tout seul une manière absolue de voir les choses. Il me faudrait tout un livre pour développer ce que je veux dire. J'écrirai sur tout cela dans ma vieillesse, quand je n'aurai rien de mieux à barbouiller. En attendant, je travaille à mon roman avec cœur. Les beaux temps de Saint-Antoine vont-ils revenir? Que le résultat soit autre, Seigneur de Dieu. Je vais lentement. En 4 jours, j'ai fait 5 pages. Mais jusqu'à présent, je m'amuse. À Louise Collet, Croisset, dimanche 1h, 25 janvier 1852. Depuis le lendemain de mon arrivée ici, je n'ai vu âme qui vive. La Seine coule à plein bord. Le petit bout des branches des arbres est déjà rouge. J'ai travaillé avec ardeur. Dans une 15 jours, je serai au milieu de ma première partie. Depuis qu'on fait du style, je crois que personne ne s'est donné autant de mal que moi. Chaque jour, j'y vois plus clair. Mais la belle avance, si la faculté imaginative ne va pas de pair avec la critique. À Henriette Collier, Croisset, 1er février 1852. Tout est triste ici. Le temps, les hommes, les choses. Beaucoup de brouillard et la haine dans tous les cœurs. Pourquoi rester dans sa patrie? Pourquoi ne peut-on pas aller vivre dans quelque beau pays aimé du soleil, loin de toute politique, avec ce qu'on aime? Me voilà revenu à Croisset. J'y travaille tout seul, et beaucoup. Si je suis content du livre que je fais maintenant, je le publierai l'hiver prochain et vous l'enverrai. Vous le liriez en pensant à moi. Y pensez-vous quelquefois? Êtes-vous comme toutes mes vieilles affections qui me quittent une à une, comme mes cheveux? Les unes s'en vont par la mort, d'autres par l'indifférence. On ne revient pas plus de l'une que de l'autre. Hélas, non, n'est-ce pas, chère Henriette? Vous me restez, mon souvenir ne vous abandonne pas. À Louise Collet, Croisset, nuit de samedi, 31 janvier 1852. Mauvaise semaine. Le travail n'a pas marché. J'en étais arrivé à un point où je ne savais trop que dire. C'était toutes nuances et finesses où je n'y voyais goutte moi-même. Et il est fort difficile de rendre clair par les mots ce qui est obscur encore dans votre pensée. J'ai esquissé, gâché, pataugé, tâtonné. Je m'y retrouverai peut-être maintenant. Oh, quelle polissonne de choses que le style! Tu n'as point, je crois, l'idée du genre de ce bouquin. Autant je suis débraillé dans mes autres livres, autant dans celui-ci je tâche d'être boutonné et de suivre une ligne droite géométrique. Nul lyrisme, pas de réflexion, personnalité de l'auteur absente. Ce sera triste à lire. Il y aura des choses atroces de misères et de fétidité. Boyer, qui est venu dimanche dernier à 3 heures, comme je venais de t'écrire ma lettre, trouve que je suis dans le ton et espère que ce sera bon, Dieu l'entende. Mais ça prend des proportions formidables comme temps. À coup sûr, je n'aurai point fini à l'entrée de l'hiver prochain. Je ne fais pas plus de 5 à 6 pages dans ma semaine. à Louise Golay, Croisset, 8 février 1852. Tu es donc décidément l'enthousiaste de Saint-Antoine, toi. Je suis dans un tout autre monde maintenant, celui de l'observation attentive des détails les plus plats. J'ai le regard penché sur les mousses de moisissure de l'âme. Il y a loin de là au flamboiement mythologique et théologique de Saint-Antoine. Et de même que le sujet est différent, j'écris dans un tout autre procédé. Je veux qu'il n'y ait pas dans mon livre un seul mouvement, ni une seule réflexion de l'auteur. Je crois que ce sera moins élevé que Saint-Antoine comme idée, chose dont je fais peu de cas, mais ce sera peut-être plus raide et plus rare, sans qu'il y paraisse. J'ai un peu mieux travaillé cette semaine. J'irai à Paris d'ici à un mois ou 5 semaines, car je vois bien que ma première partie ne sera pas faite avant la fin d'avril. J'en ai bien encore pour une grande année, à 8 heures de travail par jour. Le reste du temps est employé à du grec et à de l'anglais. Dans un mois, je lirai Shakespeare tout couramment, ou à peu de choses près.